Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Mon titre pour aujourd'hui, c'est « Être croyant et ou pratiquant ». Croyant. Pour nous, ça devrait aller ensemble, croyant et pratiquant. Mais pour certaines personnes, ils se déclarent croyants, mais pas forcément pratiquants. C'est comme si je vous disais, tout le monde sait que je suis un excellent joueur de foot. D'ailleurs, je pourrais être aussi bon que Messi ou Ronaldo. Et si on me demande, mais tu joues dans quel club? Ah non, je ne pratique pas. Je ne vais jamais sur le terrain. Mais je connais les règles. J'ai d'ailleurs une tenue complète du PSG et de l'OM. Je dis exprès les deux parce qu'ils vont jamais ensemble. Et je regarde à la télévision et je donne mon avis. Je critique les matchs, les autres joueurs, les entraîneurs. Je fais des paris en ligne sur Internet. Alors, vous êtes convaincus? Beaucoup de gens ont exactement cette attitude quand il s'agit de Dieu. Et d'ailleurs, c'est une attitude où on se rend compte que nous sommes à l'heure des infos en continu. Il y a tout le temps des infos. On entend des choses. Et à force d'entendre, on croit qu'on est aussi des spécialistes et des connaisseurs. Donc on donne notre avis sur tout. On pense qu'on est capable de tout critiquer. Je ne dis pas que les politiques ont toujours raison, mais quand une décision est prise au plus haut niveau, les gens disent « Ah non, ils devraient pas faire ci » ou « Ils ont eu raison de faire ça ». Alors que des fois, ça demande des années d'études et de connaissances de certains domaines pour pouvoir s'exprimer, parce qu'ils ont pensé à une chose, mais pas à une autre, forcément. La chaîne de télévision CNN, très connue, qui a été une des premières à donner des infos en continu, elle avait ce slogan « Soyez le premier à savoir ».« Be the first to know ». Comme si c'était important pour nous d'être le premier à savoir. Dans certaines situations, oui, les décideurs dans le grand business, des fois il faut avoir les infos pour prendre les bonnes décisions, pour les marchés, etc. Mais des fois, ça n'a aucun intérêt de savoir tout de suite. Certaines choses, des fois, il n'y a même aucun intérêt à le savoir. Et des fois, on est même mieux de ne pas entendre parler de certaines choses. Dans la Bible, nous qui avons cette référence dans le livre de Dieu, on voit que Lot, qui était installé au milieu de Sodome et Gomorre, il tourmentait quotidiennement son âme à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Et pour moi, c'est aussi exactement la démonstration du croyant moderne qui est au milieu de Sodome et Gomorre, qui voit, qui entend ce que le monde dit. Il ne fait rien, il ne travaille pas à changer le monde, mais il afflige son âme. Et on voit deux personnages, on voit Abraham et Lot. Or, nous sommes appelés non pas à imiter Lot, mais à imiter Abraham, le père des croyants, qui est le modèle de notre foi. Et lui, il agissait, et on peut dire même, il agissait comme quelqu'un qui était un prince parmi les gens de son temps. C'était que, on peut dire, un éleveur qui avait au bout d'un moment des serviteurs, des troupeaux et de la richesse, d'accord? Mais il n'avait pas de position, il n'était pas un dirigeant d'un pays, et pourtant on commençait à regarder à lui comme quelqu'un d'influent, d'important. Et quand il fallait y aller, il est allé. Quand il a entendu que il y avait son neveu qui a été enlevé pendant la guerre, ben, il est allé avec ses serviteurs pour le délivrer. Donc c'est pas quelqu'un qui restait les bras croisés à rien faire. Donc il y a des moments où nous sommes appelés à agir, puisque Abraham c'est le père des croyants, mais on voit qu'il est aussi quelqu'un qui agit. Et donc à l'inverse, nous avons déjà souvent eu l'occasion de citer ce passage des Actes des Apôtres, où quand Paul arrive à Athènes, il voit qu'il y avait des gens qui passaient que leur temps à dire et écouter des nouvelles. Ils avaient leurs esclaves qui faisaient leur travail, et donc ces Athéniens, donc pour beaucoup de choses, nous sommes encore influencés par la sagesse grecque et la logique grecque et tout leur raisonnement et philosophie, et à un moment de leur histoire, ben, ils étaient réputés pour ça. Ils parlaient, ils échangeaient des nouvelles, etc. Donc, il y a une place pour avoir des informations. Mais dans certaines situations, et on se rend compte, certains sont exactement comme l'apôtre Paul l'a décrit dans 2 Timothée, ils sont apprenants toujours, mais ça conduit à quoi? Dans 2 Timothée 3:6, il dit la chose suivante. Certains d'entre eux, ils sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et il cite un exemple. De même, Jannès et Jambres se sont opposés à Moïse. De même, ces hommes, ils s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et ils sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Des fois, il y a des termes bibliques où des fois les gens disent « c'est compliqué, on ne comprend pas bien ». Disqualifié, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein. Vous pouvez être en course pour n'importe quoi. Si vous êtes disqualifié, vous n'êtes plus dans le coup. C'est fini. Donc, disqualifié en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme elle l'a été pour ces deux hommes. Donc, qu'est-ce que la Bible décrit ici comme une folie ? C'est une attitude d'être toujours en train d'apprendre et sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ce qui est quand même un comble. Parce que des gens qui sont en train d'apprendre pourraient dire « c'est bien ». Parce qu'il y en a qui disent « oh non, ça me fatigue, les études, tout ça. Déjà, j'avais le temps de l'école, c'est un souvenir négatif. » Alors on parle partout d'école. École de disciples, je parle du monde chrétien, école de la foi, école de prophètes, école de ceci, école de cela, alors on dit encore l'école, parce qu'il y a un terme général, l'école de la vie, c'est qu'on apprend toujours, mais ensuite il faut l'appliquer à quelque chose. Moi personnellement, je n'ai pas tellement de temps, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le monde, mais je sais que je ne peux pas étudier tout ce qui se fait dans le monde, qui est peut-être passionnant, fascinant, et donc j'essaie de me spécialiser pour ce qui m'est utile d'abord. Et ensuite, ce qui m'est utile, j'essaie d'en tirer le profit maximum. À quoi ça me sert d'apprendre, je vais dire ça comme ça maintenant, des langues étrangères pour aller pour un pays où je ne vais jamais aller? Donc, si par exemple, j'ai envie d'apprendre une langue étrangère, je vais peut-être le faire en rapport avec un projet. Là, on peut le comprendre. Si vous faites un voyage, si vous avez prévu quelque chose, beaucoup de gens le font, on apprend quelques mots minimum, hein, pour dire bonjour, merci, s'il vous plaît, demander son chemin. Donc là, ça a du sens. Mais qui voudrait apprendre juste des langues comme ça pour le plaisir d'apprendre des langues? Si c'est votre hobby, alors c'est différent, mais nous voulons donner du sens à ce que nous faisons. Donc il y a une école, même si certains n'aiment pas trop le mot, l'école de la vraie vie. Et Paul nous le décrit toujours dans ce 2 Timothée, un peu plus loin, verset 10, il dit à Timothée, « De ton côté ». Donc il y a la différence entre ceux qui sont en train d'apprendre et ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité, et à Timothée, donc maintenant il s'adresse à lui, il dit « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement ». Et ça c'est important aussi, de près, hein, suivre un enseignement de près. Nous aussi on peut soit écouter distraitement ou être très attentif. Mais là il y avait une proximité, et c'est aussi cette proximité, je voudrais que chacun de vous, vous l'ayez réellement avec le Seigneur. C'est pas juste entendre et entendre encore et encore, mais il est tout près de nous, et il est en train de parler. Et il parle des fois dans un murmure doux et léger, parce qu'il veut pas vous crier dessus. Il aimerait vous dire des choses parce qu'il vous aime. Tu as suivi de près mon enseignement, mais aussi ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Remarquez comme on est loin de Matthieu 23, quand Jésus dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez de pesants fardeaux que vous mettez sur les gens, mais vous-même, vous faites même pas ce que vous leur dites de faire. » Donc, ici, on a une situation totalement différente. Et je me rappelle lorsque, au début, nous avions lancé notre école biblique par vidéo, le centre de formation biblique, j'avais eu l'occasion de partager avec quelqu'un, et c'était un ami chrétien, et je lui ai simplement partagé de façon amicale, c'était pas pour le recruter, en disant « tu devrais absolument faire cette formation ». Mais il me dit, oh, moi je suis saturé de spirituel. Je sors d'une formation de 2 ans et là, je suis... Et en moi-même, j'écoute toujours et après je réfléchis. Et je me dis, comment peut-on être saturé de spirituel? Ça c'est au contraire, c'est excellent. On devrait être saturé de la présence de Dieu dans notre vie. L'amour devrait déborder totalement et le Saint-Esprit devrait se manifester en permanence comme une espèce d'énergie qui agirait tout notre être, esprit, âme et corps. Mais en réalité, je comprends ce qu'il a voulu dire. Il a suivi une formation que je ne juge pas, mais qui a eu un effet sur son intellect, au point qu'il était un peu rempli maintenant de connaissances et d'apprentissage et de choses. Mais ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, c'est que dans nos enseignements, dans nos prédications, dans notre façon de lire la Bible, dans notre façon d'échanger avec les autres, nous soyons dans cette proximité que Paul a décrite ici. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Pas seulement l'enseignement par Internet, qui est très bien aussi, puisque nous-mêmes, nous aussi, nous diffusons par tous les moyens que Dieu nous donne, mais aussi la vraie vie, la proximité, la vie locale, la vie d'église. La vie ensemble, celle qui est difficile, parce que c'est celle qui nous met à l'épreuve. On peut être très bien avec quelqu'un, de très bons amis, chers amis. On se voit une fois tous les 6 mois, on reste juste au niveau totalement superficiel de communication. Vous savez, la communication, nous en avons parlé. Nous voulons arriver jusqu'au niveau 5 de la communication profonde et intime. Et en général, on en reste au « bonjour, ça va », le numéro 1, de juste le plus superficiel possible. Mais ce n'est pas satisfaisant. Mais avec ça, on peut rester amis très longtemps. Parce qu'on ne va jamais confronter nos avis, nos opinions, on ne va jamais parler de nos sentiments, et on ne va jamais arriver à cette proximité. Au bout d'un moment, il y a des choses qui nous dérangent chez l'autre. Avec un double défi, accepter l'autre comme il est, avec ce qui nous dérange, et aussi ne pas avoir cette tentation de vouloir absolument le changer pour qu'il devienne comme nous. Et puis aussi, savoir est-ce que je suis maintenant appelé à l'aider, à changer, se transformer, et c'est Dieu qui va le faire. Alors des fois, on essaye de, tout à coup, on commence dans l'esprit, on bascule dans la chair, et on essaie de faire beaucoup de choses par nous-mêmes, pour changer ce qui nous dérange. Mais donc, il y a cette proximité, et c'est important. Donc, avec ce qu'on a dit, apprentissage, école de la vraie vie, intimité dans notre relation avec Dieu, tout ça, c'est un entraînement. Vous êtes d'accord avec moi? L'enfant, le jeune qui étudie, c'est un entraînement. C'est en vue de quelque chose. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour les jeunes quand ils n'ont pas encore décidé ce qu'ils veulent faire de leur vie, quels vont être les objectifs, même si quelqu'un depuis le plus jeune âge sait ta profession qu'il veut exercer, même s'il ne va pas le faire. Mais c'est quelque chose qui va le motiver. Quelqu'un qui veut être dans un certain domaine, il saura qu'il y a des matières qu'il faut favoriser. Il faudra spécialement travailler dans ce tel ou tel domaine. Donc, il va être motivé. Mais pour nous aussi, il n'y a pas une grande motivation d'écouter encore et encore des choses où on ne voit pas d'application. On se dit, mais à quoi ça sert? C'est pour ça que nous ne faisons pas de beaucoup d'enseignements ici sur qui est l'Antéchrist. Quel est son nom? Parce que en réalité, la Bible ne nous dit pas que c'est important pour nous de focaliser sur ce genre de choses. Nous savons qu'il va se manifester, nous savons que l'esprit de l'Antéchrist se manifeste déjà, mais nous ne focalisons pas sur des choses qui n'ont pas d'impact dans notre vie de croyant et qui n'ont pas d'impact dans la mission que Dieu nous a confiée. Nous sommes conscients de certaines choses qui se passent dans le monde, mais ce que nous voulons avant tout, c'est être capable, et ça c'est mon numéro 1, s'entraîner en vue de quoi? De surmonter les épreuves. C'est ça. La finalité de l'étudiant ou de l'écolier, c'est un examen. Que ce soit un examen ou un concours, il y a une finalité. Il faut surmonter cette épreuve. Vous qui êtes étudiant parmi nous, votre objectif n'est pas d'éviter l'épreuve. Mais c'est de l'affronter et de la surmonter et de la remporter. L'autre épreuve, ce serait comme quelqu'un qui veut conduire sa voiture. Donc, il faut un permis de conduire. Et puis, il va étudier le code de la route, il va faire de la conduite. Et va dire, oh non, je ne veux pas passer cette épreuve. Ce serait ridicule. À un moment donné, il faut l'affronter. Même si on a un peu l'estomac noué, hein, du stress et autre chose. Non, c'est trop désagréable, je ne vais pas le passer. Si, à un moment, il faut l'affronter. Mais dans la vie, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas avoir de conflit avec qui que ce soit, faites comme Élie. Vous vous enfermez dans votre caverne, n'avez plus de relation avec personne, et comme ça, personne ne vous embête. D'accord? Mais ce n'est pas la vraie vie. On n'est pas appelé à ça. Donc à un moment donné, le fait que Dieu nous appelle, sort de ta caverne, ça veut dire que vous êtes maintenant dans la vraie vie. Et là, il y a des choses à affronter. Mais, gloire à Dieu, il nous donne les moyens d'en sortir. Donc pour nous, cette notion d'éternel étudiant, on appelle les éternels étudiants ceux qui poursuivent leurs études au-delà d'un certain chose raisonnable. Vous voyez, ils ont atteint certains objectifs et ils disent, tiens, pourquoi je ne m'inscrirai pas encore dans tel truc? Alors ils font encore une licence de ceci, un master de cela, un diplôme de autre chose, etc. Et puis ça continue pendant des années, et nous on dit c'est les éternels étudiants, parce qu'à un moment donné, ça doit conduire à quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Et on devrait avoir hâte d'arriver dans ce qu'on appelle la vie active. Alors, surmonter les épreuves, nous allons regarder ensemble Jacques 1 et 2. Pas tout et pas d'un seul coup, mais regardons quelques versets. Dans l'épître de Jacques, il nous dit au verset 12, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. » Je précise tout de suite que le mot « tentation » et « épreuve » sont dans beaucoup de versets interchangeables. Ça marche dans les deux domaines. Ça veut dire que des fois, quand on vous dit « surmonter une épreuve », ça veut dire « surmonter une tentation ». Parce que si on le prend comme ça, vous voyez, si on dit « il faut que tu surmontes cette épreuve et que tu te décourages, que tu baisses les bras », on peut dire que tu t'es laissé tenter de te décourager. C'est aussi une attaque contre ton cœur pour que tu baisses les bras, pour que tu fasses plus. Alors, voyons ensemble. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est ça qui nous motive toujours dans n'importe quel apprentissage et dans la vie chrétienne. Il y a une récompense. La couronne de vie est une réalité. Ce n'est pas seulement on vient de passer la galette des rois. Si vous avez été roi, vous avez votre couronne. Ça, c'est bien quand vous êtes un petit enfant qui se réjouit d'avoir sa couronne sur la tête. Mais nous, en tant qu'adultes, il faut qu'on sorte un peu des contes de fées pour voir quelle est la réalité de cette couronne. Je ne m'intéresse pas d'avoir une couronne. Mais si tu savais quelle est la nature de cette couronne de vie, tu en voudrais de cette couronne de vie, parce que c'est la récompense de Dieu, c'est là que la vie de Dieu est intimement liée. La couronne, c'est le symbole de l'autorité, c'est le symbole de celui qui a la puissance pour agir dans un domaine. Et quand il nous est dit dans Romains 5, 17, à plus forte raison, ceux qui ont l'abondance de la grâce, ils régneront avec Jésus-Christ lui-même, donc dans la vie. Alors c'est une réalité. Ça veut dire que on n'a plus besoin de subir et d'être écrasé par toutes les choses qui se passent dans cette vie, mais on arrive dans une dimension où on peut expérimenter la couronne de vie dès maintenant. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. La mort, ça veut dire que on ne tombe pas toujours raide mort d'un seul coup. Mais la mort agit. Et au bout d'un moment, pour certaines personnes, on le constate en fin de vie. c'est le résultat d'une vie de péché ou d'une vie où on s'est exposé à la vie de Dieu. Ce n'est pas un jugement que je porte sur des personnes qui seraient malades, ce n'est pas la question. C'est simplement une réalité que le péché et la mort ne sont pas des choses que Dieu désirait pour l'humanité. Au verset 16, il explique encore. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. » Ça veut dire qu'on peut être sûr de lui. Il n'est pas changeant tout le temps. C'est tellement difficile de vivre avec des gens qui sont, on appelle ça, lunatiques. On ne sait jamais où on en est avec eux. D'un instant à l'autre, ils sont gentils. L'instant d'après, ils explosent. Et puis, donc il faut vivre avec des gens comme ça. Mais grâce à Dieu, la Bible nous présente notre Père Céleste comme quelqu'un qui n'est pas comme ça. Il n'y a pas de variation. Ça ne veut pas non plus dire qu'il est statique, qu'il ne bouge pas, rien ne se passe. Mais dans ses sentiments, dans sa façon d'être, il est toujours le même. Alléluia. Conformément à sa volonté. Alors c'est la volonté. On prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ben voilà, maintenant on peut apprendre quelque chose de concret par rapport à la volonté de Dieu. Quelle est cette chose concrète? Il nous a donné la vie par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. Dans d'autres versions, on dit les prémices, hein, les premières de ces créatures. On est là pour montrer ce que Dieu veut faire pour l'humanité. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on doit avoir ce désir que la vie de Dieu se manifeste. Ainsi donc, une démonstration, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter. Cette écoute de qualité. Lent à parler, pas tout de suite la réponse est déjà prête avant que la question soit formulée. Lent à se mettre en colère, pas tout de suite réagir au quart de tour parce qu'on a peut-être mal compris ou qu'on a prêté des intentions à l'autre qui ne les étaient pas. Et de tenir compte, 1 Corinthiens 13, que l'amour croit tout, espère tout, supporte tout, est patient et donc on est capable d'écouter. Écouter au moins jusqu'au bout, et après on comprend, parce que des fois on comprend juste une bribe, et puis on croit que c'est ça. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme produit des murs de séparation, condamnation, jugement, on perd son sang-froid, et on casse la relation. C'est pourquoi rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. La parole qui a été plantée en vous. Donc cette parole vient de l'écoute. Elle est plantée encore et encore et encore. Mais après, on sait que après, pour qu'une plante puisse germer, grandir, se développer, il faut d'autres choses. Mais d'abord, il y a l'accueil de la parole. Rappelez-vous que Jésus a dit qu'il en est comme d'un semeur qui sortit pour semer. On a beau jeter de la semence et encore et encore et encore, si le terrain est dur, ça ne servira à rien. Et nous avons dit tout à l'heure en introduction de ce message que c'est une semence incorruptible. Donc ça ne dépend pas de la qualité de la semence, ça ne dépend pas non plus du semeur, mais ça dépend de la qualité du sol. Quel type de sol sommes-nous? Est-ce que nous sommes capables d'accueillir la parole? Donc, surmonter les épreuves de la vie, c'était la première chose que nous voulions voir quand on parle de s'entraîner, apprendre des choses. Pourquoi? Pour surmonter les épreuves. Quelles épreuves? Ben, toutes les épreuves et tentations que vous pouvez lister. Et des fois, on est tellement habitué à des petits péchés, entre guillemets, qu'on ne se rend pas compte que c'en est. Mais toutes les petites irritations du quotidien, toutes ces petites choses, je dis pas que vous deviez maintenant devenir crispé, focalisé, mais laissez Dieu vous montrer que vous pouvez avoir une autre attitude. Il y a des choses que vous pouvez changer en disant que, relativiser les choses dans ce qui vous dérange. C'est pas toujours une grosse épreuve, une grosse tentation, mais c'est aussi toutes ces petites choses qui empoisonnent notre quotidien. Donc, on s'entraîne en vue de surmonter les épreuves, et deuxièmement, Nous voulons y faire des applications concrètes. Comment est-ce que je peux agir par rapport à ça? Là encore, je voudrais répéter que l'édification n'est pas une finalité. C'est pas une finalité. Plus l'Église corps de Christ multiplie les enseignements, les séminaires, les réunions d'édification, plus le corps de Christ devrait être fort. Mais en réalité, il ne le devient pas. La plupart du temps, il ne le devient pas. Un pasteur d'Amérique du Sud, il avait connu une relative croissance dans son église, et donc il était content parce que vous savez, quand vous avez une église d'une taille de à peu près 300 membres, vous pouvez dire, bon, c'est une église bien établie, ça tourne, etc. Donc, à un moment donné, il était quand même frustré. Et il s'est dit, mais avec tous les efforts qu'on fait, comment se fait-il qu'on n'ait pas un plus grand impact dans la société ou d'autres choses? Et il s'est dit que finalement, en croyant édifier le corps, il ne les avait pas vraiment fait grandir. Il a dit, l'Église n'avait fait que grossir. Il a dit, nous avions 300 bébés spirituels auxquels il fallait donner le biberon. Et donc, un bébé, c'est charmant. Mais ça demande beaucoup d'attention et un bébé est assez rapidement égoïste, naturellement. Il voit ses problèmes, ses besoins. Et chaque fois qu'il n'est pas content, il crie. Parce que c'est sa façon de réagir. Et donc, c'est une façon naturelle dont l'être humain se développe. Mais quand l'être humain spirituel se développe, quand un chrétien ne grandit pas, il a ce comportement de bébé. Et après... Nous savons que c'est très important l'influence que les parents vont avoir sur le développement des premières années. Parce que c'est ça qui va faire que l'enfant va garder une certaine attitude égocentrique où tout lui est dû, ce qui a donné les enfants rois, on les a appelés comme ça, et qui fait que leur caractère est très difficile. À l'adolescence, ça devient encore plus compliqué, et donc on a des problèmes avec ça. Mais c'est pour ça que c'est important pour nous que l'édification n'est pas une finalité. Et c'est pas en multipliant des écoles bibliques simplement d'enseignement que nous allons atteindre l'objectif du corps de Christ qui est de former des disciples. Former des disciples, ça demande autre chose. Et là, Jacques, toujours lui, continue. On peut faire parler la parole de Dieu et elle est tout à fait applicable. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail. Oh, le mot travail. Encore travailler. On voudrait se reposer un peu. Rappelez-vous, votre esprit n'a pas besoin de repos. La foi est un serviteur infatigable. Il suffit que vous déclenchiez quelque chose. Et il nous est dit, il en est d'un homme qui jette sa semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, elle fait ce qu'elle a à faire comme semence. Elle va grandir, elle va se développer. Donc, la foi, vous pouvez la faire travailler. Simplement que vous entendez quelque chose, vous dites une parole appropriée à ce sujet. Vous lancez quelque chose, c'est ça le travail. C'est de commencer à dire la même chose. Vous avez un souci. Oh, j'ai envie de dire, ça marchera jamais. Ça va jamais changer. Au lieu de ça, je commence à dire quelque chose. C'est possible pour Dieu. Quelque chose est en route. Je vois quelque chose que je dois changer. Oh, j'arrive pas à changer. Mais je peux dire quelque chose à ce sujet. Je me mets au travail. Je vois une situation qui se reproduit régulièrement, peut-être avec quelqu'un, eh bien, je dois me mettre au travail de dire, il faut que je trouve une solution pour faire autrement. Alors, quand il se met au travail, je parlais de la récompense, il nous est dit la chose suivante, il sera heureux dans son activité. On est quand même des êtres curieux des fois. Dieu nous dit ce qu'il faut faire pour être heureux, et on ne le fait pas. Et à côté de ça, les hommes poursuivent toutes les possibilités pour décrocher et trouver le bonheur quelque part. Et Dieu donne des indications, mais on ne le fait pas. Et chez les chrétiens et dans les églises, c'est pareil. Et alors on se cache dans quelque chose qui est complètement faux, qui est la religion. Alors là, Jacques dit, si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bribe, mais trompe son propre cœur, sa religion et son valeur. Ça sert à rien. Donc ça sert à rien, beaucoup d'efforts pour finalement se tromper soi-même, tromper son propre cœur. Là encore, l'importance d'être à plusieurs, parce que des choses qu'on ne veut pas voir en nous-mêmes, d'autres vont des fois nous les dire. Est-ce que ça sera agréable? Ben, pas toujours. Pas toujours. La plupart du temps, c'est pas agréable. On n'aime pas l'entendre. C'est pas, c'est comme ça. Mais c'est ça qui nous aide. Parce que nous-mêmes, on a tendance des fois à se tromper. Et alors, il dit quelque chose de très simple. Une religion pure, la religion, c'est pas un gros mot, hein. La religion, ça veut dire être lié à Dieu ou à quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui peut être positif. Sauf que trop souvent, la religion, ça devient un esclavage de traditions et de choses erronées. Mais il y a une religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père. Elle consiste à s'occuper des orphelins, des veuves dans leur détresse et ne pas se laisser souiller par le monde. Donc, il ramène à l'essentiel, s'occuper des besoins des gens et ne pas se compromettre avec beaucoup de choses mauvaises qui se font dans le monde. Vous voyez, c'est simple quand même, hein. Donc, les enseignements, c'est écouter, mais aussi recevoir. Il ne faut pas seulement des séminaires, mais des chantiers, des endroits où on travaille ensemble. Je trouve tellement positif les choses que nous avons vécues dans l'Église en ces dernières années. Quels sont les meilleurs souvenirs? Pas forcément le moment où on a rempli la salle, ou pendant un week-end, ou sur une semaine, on avait énormément de réunions, mais les moments où il s'est passé quelque chose. Les moments où on a passé une journée à repeindre la salle, dans l'autre salle. Les moments où on a fait des colis missionnaires ensemble. On pourrait faire des moments où on fait une matinée ménage, ou servir aux tables lors des agapes. Des fois, c'était aussi des journées test, parce que vous avez des gens... Ils s'asseyaient et ils faisaient rien. Ils trouvaient normal que les autres les servent. Mais ceux qui ont compris la vraie vie, ils savent que on est appelé pour servir. Et on a du plaisir à servir. Mais au bout d'un moment, le plaisir est un peu terni quand on voit une mauvaise attitude. Mais finalement, ce sont ça les moments importants. Ou des moments où on a réellement fait quelque chose ensemble. C'est ça la pratique aussi. Pas seulement on écoute, on est assis, on repart. Non, il y a un moment où ça doit se traduire en quelque chose. Ces choses entendues doivent toujours se traduire. Donc, une plus grande soif de Dieu, de sa proximité, d'écouter des choses où je sais quoi en faire. Et, quand je parle du mot faire, j'en arrive au troisième dernier point, la foi avec les œuvres. On saute quelques versets et on va dans Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Donc quelles œuvres? L'œuvre, des fois certains prédicateurs et pasteurs disent l'œuvre de Dieu pour parler en général de tout ce qui est leur église, etc., toutes les activités. Mais l'œuvre, pour moi, c'est avant tout ta vie au quotidien. C'est ces gestes d'amour et de bonté du quotidien. Cette expression que j'ai retenue, les gestes d'amour et de bonté de la vie quotidienne. C'est ça les œuvres avant tout. Pas seulement, est-ce que je vais construire, je sais pas du tout une critique, mais Oral Roberts, dans les années, 60-70, il a construit la Cité de la Foi. J'ai pu la visiter, la Cité de la Foi. C'est trois immenses bâtiments. À l'époque, c'était impressionnant. Dans la ville de Tulsa, il y a une grande tour et devant, il y a deux mains qui sont jointes comme ça, qui montrent la prière. Et là, sa vision, c'était il y a un hôpital chrétien avec dans le sens qu'il y a des soignants qui sont tous des enfants de Dieu, des médecins et infirmières. Et donc, il y a plein de choses qu'il voulait faire. Donc, on pourrait dire, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Oui, mais pas seulement. D'accord ? Il ne faut pas qu'on soit focalisé sur des grandes réalisations, des bâtiments, des choses comme ça. L'œuvre de Dieu, c'est pas combien de colis, combien d'enseignements, combien de, on est présent sur le net, est-ce qu'on a une chaîne de télévision. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait tous les jours ? Comment est-ce qu'on pense à vous ? Quand on pense à vous, qu'est-ce que pensent ces gens ? Oh, une personne désagréable, une personne bizarre, avec plongée dans ses livres chrétiens ou toutes sortes de choses que non, ou une personne avec qui on aime être parce qu'il y a quelque chose qui se manifeste qu'il ne définit peut-être pas comme étant la présence de Dieu, mais qui est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est notre programme. On doit poursuivre ces choses au quotidien. À un moment aussi, dans les épîtres de Paul, il dit à Timothée, toi, recherche ces choses. Poursuis-les. Poursuis-les comme quelque chose qu'on voudrait absolument atteindre. Ça doit être notre objectif. Le matin, on se réveille. Comment je vais maintenant manifester l'amour, la joie, la paix? Et puis pas, on se réveille du mauvais pied et puis c'est mal parti. Mais ça doit être notre désir. Ce qu'on poursuit. En fait, on se rend compte que quand on est passionné par quelque chose, on pense tout le temps à cette chose. Aussi dans l'autre sens, quand on est obsédé par un souci ou une inquiétude, c'est quelque chose qui demeure en nous. Mais moi, je veux vraiment vous encourager à être tellement amoureux de Jésus, de sa parole et de penser à Dieu que vous cherchez à lui plaire. Ça ne devient pas une contrainte, mais c'est ce désir en vous de dire comment je vais maintenant encore manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. La foi qui est aussi traduite par fidélité dans certaines versions, la douceur, la maîtrise de soi, que ces choses y soient. Et c'est ça notre épreuve au quotidien. On m'agresse, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais manifester de l'amour ou de la haine ? Je vais manifester de la douceur ou de la dureté ? Quelque chose me contrarie. Est-ce que je vais être impatient ? Patient. Quelqu'un fait une erreur ? Quelqu'un n'a pas rempli ses obligations, peut-être en termes de boulot, travail d'équipe. Est-ce que je vais montrer de la bienveillance? Ou est-ce que je vais basculer dans la critique, le descendre ou l'agresser? Toutes ces choses, c'est notre test au quotidien. Et quand la maîtrise de soi se manifeste, c'est pas parce que vous avez un numéro spécial, qu'on dit oui, vous êtes zen. Non, c'est parce que l'Esprit de Dieu a fait que maintenant, je suis plus comme j'étais. Donc on a tous nos domaines où on était plus fort ou moins fort. Hein. Le fruit de l'esprit c'est quelque chose de global, mais la réalité c'est que on n'est pas déjà pas à 100% dans tous ces domaines, mais il y en a certains d'entre nous on est plus spécialisés que d'autres. Alors on travaille là où c'est nécessaire. Hein. Et là aussi je voudrais parler de la joie qui manque souvent chez les chrétiens, c'est parce qu'on est encore avec ce syndrome de Lot. On voit trop de choses dans le monde qui vont pas, des choses qui sont de travers, et ça nous affecte. Ça nous affecte au point qu'on ne laisse pas la joie de Dieu se manifester tant que nos choses ne sont pas réglées, tant que le monde il est pas merveilleux, gentil et comme on voudrait. Non, mais on ne peut pas se permettre ça. Au contraire, la joie de l'Éternel est en notre force, il faut la développer. Des chrétiens qui parlent d'impossibilité et qui sont inquiets pour leur avenir, etc., te montrent que le fruit de l'esprit, de la paix, il n'est pas présent. Et c'est tragique, ça. Si nous aussi, on doit prendre des antidépresseurs et des, combattre le stress, etc., alors que tout est dans la parole de Dieu, alors ne soyez pas étonnés si on a peu d'impact. On continue dans Pierre. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc, croire en Dieu, juste, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, oh, là on prend une claque, homme sans intelligence, en quoi, moi? Oui, ben, des fois on agit sans intelligence, c'est pour ça qu'on apprend aussi. Celui qui pense qu'il sait déjà tout, il n'apprend plus rien. Donc de temps en temps je vais dire oui, me suis comporté comme un bêta dans ce domaine, homme sans intelligence. Est-ce que tu veux reconnaître que la foi sans les œuvres est morte? Ne prétends pas être super spirituel si tu n'arrives pas à appliquer ces choses que j'ai dites au quotidien. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. C'est bien ça. Voyez-vous donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Donc on a deux exemples qui semblent tellement opposés, le père de la foi et une prostituée. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont agi par la foi à un moment ou d'autre. Et ça aussi, c'est extraordinaire dans la Bible. De nous montrer comme ça le grand écart, de dire, oui, il y a quelque chose de commun. C'est pas à cause de sa position, mais c'est à cause de ses actes. Et que quel que soit ce que la personne ait pu faire, ou la condition dans laquelle elle est, mais à partir du moment où elle agit selon la parole de Dieu, il y a une transformation qui s'opère. De même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vraiment une exhortation à mettre en pratique, à déceler dans les petites choses du quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour que la vie de Dieu se manifeste. Et quand vous aurez atteint cet objectif, vous le saurez, parce que vous serez toujours dans 2 Timothée 2, dans ce que ce Paul a donné à Timothée, il a dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, une chose est vraiment acquise quand on est capable de la transmettre. C'est pas parce que j'ai juste entendu une chose que je suis capable tout de suite d'enseigner cette chose. Mais une fois que c'est vraiment en moi, et que je peux le donner à d'autres, c'est là que je me rends compte, ça y est, je l'ai acquis. Donc on peut faire ensemble une bonne déclaration basée sur 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne m'est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que je puisse la supporter. Et maintenant, on va encore une fois le redire avec le mot épreuve. Aucune épreuve ne m'est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que je puisse la remporter. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.